Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dewani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halud Mandi.
Chienne Berry. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Auditrices et auditeurs, bienvenue au Grand Dialogue de ce mardi 11 octobre. Le mariage précoce, c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui en marge de la Journée internationale de la fille. Plus de 700 millions de femmes et près de 150 millions d'hommes sont concernés dans le monde. Nous vous proposons de parler du cas du Mali. Quelle est l'ampleur du mariage précoce au Mali? Quel est le poids de la tradition? Est-ce que les hommes aussi sont concernés par le phénomène? Quel est l'impact sur la santé? Nos invités vont répondre à ces quelques questions et à d'autres, bien entendu. Il s'agit là de Désiré Ballot, chargée de programme droits humains à l'ambassade de Suède, Brahima Ballot, chargée de programme de l'ONG Amstop, qui est l'association malienne pour le suivi et l'orientation des pratiques traditionnelles, Fatima Sangaré, présidente du Parlement des enfants, sera avec nous dans quelques minutes, également Antoine Aploga, il est le directeur exécutif de Grandem Mali, c'est un groupe de recherche Action Droits de l'Enfant. Je suis Ousmane Diadié Touré à la présentation, la technique vous est assurée par Mamadou Ouattara.
Le Grand Dialogue.
Bienvenue. Le mariage précoce, que d'autres appellent encore le mariage des enfants, est une pratique qui consiste à donner en mariage une fille ou un garçon avant l'âge de 18 ans à une personne adulte, même si cette notion varie parfois d'un endroit à un autre. Selon des enquêtes effectuées par l'ONG Amnesty International Mali, la pratique demeure courante dans notre pays en général, dans les zones rurales en particulier. Droits sanitaires, éducatifs des femmes et des jeunes filles, tout y passe et les expose à une violence physique, psychologique, souvent une violence sexuelle. Avant d'aller dans le vif du sujet, moi j'ai bien envie de vous demander, Désiré Ballot de l'ambassade de Suède, qu'est-ce qui a été fait aujourd'hui, justement, dans le cadre de la Journée internationale de la fille au Mali? Quelles sont les activités qui ont été organisées?
Ok, merci Monsieur Touré de me donner la parole pour parler de cette Journée internationale de la fille. Que je considère une journée très importante pour la Suède, pour l'ambassade de Suède que je représente dans cette émission. Il faut dire que la Suède a un engagement constant sur, en ce qui concerne les questions de défense des enfants, les questions de promotion des droits de l'enfant. Et c'est dans ce cadre, cet engagement au niveau international et au niveau bilatéral ici au Mali, nous accompagnons l'UNICEF dans son programme pays qui s'étend sur la période 2015-2018, la Suède soutient l'UNICEF dans trois de ses composantes, qui sont l'eau, l'hygiène et l'assainissement, ensuite la protection de l'enfant et la politique sociale et l'inclusion. Donc c'est les trois composantes que la Suède accompagne. Et dans le cadre spécifique de cette journée, il faut dire que l'activité qui a été menée par UNICEF en compagnie du ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, avec Save Children et d'autres ONG de la place, s'inscrit dans le cadre des activités de la protection de l'enfant de l'UNICEF. Mm-hmm. Donc, nous avons eu à commémorer cette journée en compagnie de trois ministres ce matin. Mm-hmm.
Et il s'agissait... Alors, quelles étaient les activités justement qui peuvent intéresser nos auditeurs qui ont été menées aujourd'hui?
Les activités phares ont consisté en des présentations. Ensuite, vous savez qu'il y a des actions qui sont menées depuis 2015 ici au Mali concernant le mariage précoce. Donc le ministère de la promotion de la femme a eu le plaisir de présenter le bilan de ces activités entreprises sur le terrain. Et aussi, on a écouté des témoignages pathétiques de la part des enfants et aussi une troupe théâtrale du Vezos, le Vezos de Sanangoroba, donc qui a joué une scène de théâtre.
Le Vezos qui est le village SOS.
D'enfants SOS à Sanangoroba, donc qui a joué une pièce de théâtre et une danse qui a ému plus d'un dans la salle. Et c'était justement pour attirer l'attention des uns et des autres sur les conséquences désastreuses sur la santé de la jeune fille en ce qui concerne le mariage précoce.
Merci M. Ballot. Un autre Ballot, Brahima Ballot, chargé de programme ONG Amstop. Alors, dites-moi, 60% ou plus de 60% quand même, n'est-ce pas un peu trop quand on voit les statistiques de taux de mariage précoce au Mali, on dit que chaque 7 secondes, une fille de moins de 15 ans est donnée en mariage au Mali. Est-ce que ce n'est pas un peu exagéré à votre avis?
Bon, je remercie d'abord
Monsieur Tamani.
Je me joins à mon ami Désiré Ballot pour remercier le studio qui nous offre un cadre de dialogue pour pouvoir nous adresser à nos communautés, à la nation malienne concernant ces phénomènes. Selon les statistiques récentes, le taux de mariage précoce au Mali s'est estimé à 105%, plus de 100%.
Plus de 60%.
Donc, ce n'est pas un chiffre exagéré. Dans certaines localités, je connais, je vais citer la région de Kaï, ce taux est au-delà de 65%. Les statistiques parlent de 75%. Donc, c'est interpellateur pour tous ceux qui sont soucieux des droits humains, du bien-être des enfants, tous ceux qui s'occupent de l'enfance tout court.
Alors, est-ce que cette région de Kaï est la plus touchée aujourd'hui quand on parle de mariage précoce au Mali?
Oui, au Mali, elle est la région de Kaï. En ce qui concerne la protection des enfants, la région de Kaï vient en tête par rapport à certaines thématiques.
Lesquelles?
L'excision, par exemple, les mariages précoces. Ça, la région de Kaï vient en tête. Donc, ce chiffre vraiment est interpellateur pour chacun d'entre nous. Et c'est pour cela que ces journées comme le 11 octobre offrent l'opportunité à nous, partenaires de l'UNICEF, qui est également partenaire de l'ACDI, la coopération suédoise, pour renforcer les dialogues communautaires autour de la thématique du mariage des enfants. Pourquoi j'emploie le mariage des enfants? Parce que selon les termes juridiques consacrés, est enfin tout être qui n'a pas encore les 18 ans révolus. Donc, lorsqu'on est au Mali, un enfant avant 18 ans a sa place à l'école.
D'accord. Alors, on va revenir tout à l'heure pour développer un peu là-dessus. En attendant, moi, j'aimerais bien vous poser une question, Monsieur Désiré Ballot de l'ambassade de Suède. Quels sont les facteurs en général qui génèrent justement ces mariages précoces? Est-ce qu'on peut parler de facteurs religieux ou de poids de la tradition? Qu'est-ce qui nous amène aujourd'hui vers ces mariages précoces?
Je pense que pour répondre à votre question, je voudrais dire que la question du mariage précoce est une question assez complexe. Donc assez complexe parce que...
Je vous interromps juste un moment. Je rappelle que on me signale que M. Antoine Aplogan, le directeur exécutif, est également en ligne. On revient lui donner la parole tout à l'heure. Allez-y.
Ok. Donc c'est une question extrêmement complexe, donc qui fait intervenir plusieurs facteurs, au nombre desquels ceux que vous avez cités, notamment les facteurs religieux, aussi les facteurs coutumiers, mais aussi, je pense, il faut le dire, il y a les facteurs sociaux, mais aussi et surtout les facteurs économiques. Je pense que voilà, entre autres facteurs qui interviennent et qui soutiennent la pratique du mariage précoce dans notre pays. Peut-être un autre fait qui nous vient de la législation malienne.
On va justement revenir parler de justice et de législation tout à l'heure. Okay. Le temps de faire réagir M. Antoine Aploga. Monsieur le directeur exécutif de Grandem, est-ce que vous m'entendez?
Oui, je vous entends parfaitement.
Merci de vous joindre à nous. Vous l'avez entendu tout à l'heure, plus de 60% de taux de mariage précoce au Mali, avec Kaï qui vient en tête avec environ 75%. Alors, est-ce que, selon vous, ces chiffres sont censés... Moi, personnellement, je ne m'attendais pas à un taux aussi élevé. Alors, selon vous, alors ces chiffres sont-ils... interpelle normalement les gouvernants et la population?
Oui, je salue tous les auditeurs et je salue aussi les autres panélistes qui participent à cette émission. Merci. Je dis ce chiffre interpelle. Je dirais même que cette étude n'a pas touché le Mali profond, sinon ça doit être supérieure au taux indiqué, parce que nous travaillons dans les régions, dans 58 villages des régions de Ségou de Fana, et du sec de la région de Koulougouro, principalement du sec de Fana. Et je vous dis, le mariage précoce est un facteur très important et qui engendre beaucoup d'autres causes, qui sont telles que la déscolarisation, qui sont l'exode précoce, qui sont aussi la déperdition de mœurs, parce que c'est les gens qui atterrissent dans la ville en fuyant pour faire le travail d'aide ménagère, mais finalement ça atterrit à des enfants de rue, à des filles dans les bars ou dans les filles dans les lieux un peu obscurs. Et je vous dis, le mariage précoce crée de sérieux problèmes dans notre communauté, et il serait temps que les autorités à plus haut d'un titre puissent se réveiller. Mais moi, je dirais, ce n'est pas au sommet qu'il faut taper, c'est dans les villages qu'il faut conscientiser. Il faut que les parents prennent conscience et qu'au niveau local, des actions puissent être menées.
Monsieur Aplogan, on va parler tout à l'heure justement des voies et moyens pour sensibiliser, qu'est-ce qui serait meilleur en termes de sensibilisation. On va en reparler tout à l'heure. Juste le temps de faire réagir Brema Diallo, qui est le chargé de programme de l'ONG M-Stop. Brema Ballo, autant pour moi. C'est assez révélateur. C'est un lapsus révélateur entre les peuples et les forgerons. Merci. Alors, dites-moi, est-ce que, moi je le disais tout à l'heure dans mon introduction, on voit quand même plus de 150 millions d'hommes dans le monde qui sont aussi concernés par le mariage précoce. Alors, ce n'est pas finalement qu'un phénomène qui concerne uniquement les femmes.
Oui, le mariage précoce constitue un plein de genre. C'est une violence basée sur le genre. Donc, il n'y a pas que... Ça ne concerne pas que seulement les femmes, mais il y a aussi les hommes. Mais dans les cas spécifiques du Mali, dans les cas spécifiques des communautés dans lesquelles nous intervenons, on voit beaucoup plus les mariages qui concernent, surtout au niveau des filles.
Alors, qu'il y a quand même des zones où on voit des mariages précoces au niveau des hommes?
Je ne saurais être totalement affirmatif, mais selon mes investigations, j'ai rencontré très très peu de cas en ce qui concerne les hommes. D'accord. Peut-être mon aîné Désiré pourra donner davantage de précisions.
Alors, Monsieur Désiré Ballo, vous qui êtes de l'ambassade de Suède, il y a parfois cet amalgame-là entre le mariage précoce et le mariage forcé. Est-ce qu'il y a une différence aujourd'hui entre le mariage précoce et le mariage forcé?
Je pense que la frontière n'est pas très très étanche entre le mariage forcé et le mariage précoce. Parce qu'il l'a dit, quand on parle de mariage précoce, c'est l'union entre deux êtres qui ont moins de 18 ans. C'est-à-dire que l'un des époux peut ne pas avoir 18 ans. Et qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'on estime qu'avant 18 ans, en fait, on n'a pas la majorité acquise. On n'est pas en possession de toutes ses facultés pour décider. Alors que l'engagement dans un mariage suppose un consentement. Ça veut dire que c'est une volonté exprimée par deux personnes pour s'unir. Donc, et quand on n'a pas cette majorité, on n'est pas assez mûr pour décider de sa vie, donc on peut dire que le mariage précoce, souvent, ça peut glisser vers le mariage forcé. Et vous verrez même dans la littérature, souvent, il y a certains qui mettent mariage forcé slash mariage précoce.
D'accord, mais c'est ce que je pourrais dire. Est-ce qu'il y a quand même une différence? Parce que je. Allez-y, monsieur Ballo.
Pourquoi le mariage précoce est tacitement donc, est conduit en mariage forcé? Parce que, comme il a dit, il n'y a pas le consentement éclairé. C'est très important. Et la fille à cet âge-là ne sait pas, avec des façons rationnelles, pourquoi je m'engage dans ce mariage. Le pour et le contre, elle ne sait pas. Donc, elle n'a pas la maturité donc intellectuelle donc, de pouvoir distinguer ce qui est bien ou ce qui est mal pour elle. Voilà.
Merci. Quelques secondes de pause, nous reviendrons pour la suite de cette émission.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Bienvenue, si vous êtes connecté sur Studio Tamani, restez avec nous, c'est le grand dialogue du Studio Tamani On est mardi 11 octobre, on parle aujourd'hui de mariage précoce, on fait l'état des lieux à marge de la journée internationale de la fille. Nous recevons sur ce plateau Désiré Ballot, qui est de l'ambassade de Suède, Brima Ballot, il est le chargé de programme de l'ONG Amstop. Également avec nous au téléphone, M. Antoine Aplogan, il est le directeur exécutif de Grandem Mali, et est attendu dans ce studio Fatima Sangaré. On me signale que la présidente des parlements, malheureusement, ne sera pas avec nous aujourd'hui. À présent, Monsieur Désiré Ballot de l'ambassade de Suède, parlons un peu des législations qui régissent aujourd'hui le code du mariage au Mali. Est-ce qu'on peut se marier à quel âge? La jeune fille, le jeune homme peut se marier à partir de quel âge au Mali?
Vous savez, il y a eu cette transformation de notre société. En fait, il y a eu l'adoption des nouveaux codes des personnes à partir de 2011. Et ce code des personnes donc, a révisé en fait, l'âge du mariage en ce qui concerne et pour la fille et pour le garçon. Donc ce code fixe à l'heure actuelle l'âge du mariage pour la fille à 16 ans et à 18 ans pour l'homme, pour le garçon.
Alors ça a été revu à la hausse ou à la baisse?
À la baisse.
D'accord.
Parce que dans le code de 1962, le code de la tutelle, du mariage et de la tutelle, c'était 15 ans pour la fille et 18 ans pour le garçon.
D'accord.
Voilà. Donc, pour nous, je pense que Antoine a évoqué ça, qu'il faut associer, c'est-à-dire il faut faire une lutte au niveau communautaire pour essayer de transformer un peu les consciences.
Donc un changement de mentalité.
Un changement de mentalité. Mais ce qui est encore qu'il faut mentionner ici, c'est que au-delà de notre législation nationale, vous allez voir qu'il y a toute une batterie d'instruments au niveau international auxquels le Mali adhère, que le Mali a ratifié et signé. Je veux parler de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je veux parler de la Convention relative aux droits de l'enfant. Je veux parler de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. Et la Convention pour l'élimination de toutes les violences à l'égard de la femme. Donc, voilà entre autres instruments au niveau international que le Mali a signé et ratifié. Et le paradoxe qui se pose au Mali, c'est que la Constitution malienne du 25 février 1992 stipule dans son article 116 que les conventions internationales régulièrement signées et ratifiées par le Mali ont une valeur supérieure
à la Constitution.
Aux normes nationales. Donc voilà, et tout est un paradoxe qui se pose aujourd'hui, et je pense qu'il faut soulever cette question à l'occasion de cette journée internationale de la fille.
D'accord, parfait. Alors donc, M. Brima Ballot de l'ONG Amstop, donc c'est à dire donc que ces lois et législations ne sont pas appliquées au Mali.
Oui, mon aîné Désiré, il a presque tout dit. Quand je fais une analyse de la situation, c'est comme si l'état du Mali lui-même légitime les mariages des enfants. Parce que dans les nouveaux codes des personnes de la famille, on n'a pas fait attention à ces conventions, à ces traités que nous avons signés et qui protègent les enfants contre ces genres de pratiques. Donc, lorsque le code lui-même du Mali autorise les parents à marier les enfants à l'âge de 16 ans,
donc, les jeunes filles.
Les jeunes filles, pas facile le terrain, et il est parfois difficile, on te dira, mais je ne suis pas en porte-à-faux avec la loi malienne parce que on nous a dit que c'est à 16 ans. Mais nous, aussi le terrain, le grand frère l'a dit, il faudra d'abord amener les gens à changer de comportement.
Donc, alors, est-ce qu'il y a aujourd'hui des cas où la justice a été saisie, puisqu'on parle de 60% des cas où la justice a prévalu sur, par exemple, le droit traditionnel de mariage? Est-ce que on connaît, est-ce que vous pouvez me citer des cas où des gens ont été poursuivis pour avoir marié des filles à moins de 15 ans, par exemple?
Je parle sur la situation de mon ONG à Caï. Et des fois, nous avons saisi le juge qui est intervenu pour annuler certains mariages célébrés précocement. Et il y a un cas révélateur. Et la gendarmerie est partie taper devant la porte la nuit même des noces. Donc pour libérer la fille.
D'accord.
Mais il y a la loi. Donc, mais
est-ce qu'il y a eu des poursuites après justement
après ces actes-là. Après ces actes-là, il y a eu des poursuites. Mais le Mali étant ce qu'il est, donc c'est, après c'est toujours négocié. Donc voilà, même en cas de, il y a des plaintes, mais ça ne va pas loin. Nous, ce que nous souhaitons, c'est qu'il y a des cas qui servent d'exemple aux autres. Qu'on sache que lorsque le Mali sa fille précocement, tu peux subir des sanctions pénales. Mais malheureusement, on n'est pas parvenu à pousser ces dossiers-là jusqu'au bout.
D'accord, merci. À présent, on va faire réagir Antoine Aplogan, le directeur exécutif. Monsieur Aplogan, vous m'entendez?
Oui, je vous écoute.
Alors, face au poids de la tradition de nos différentes cultures au Mali, est-ce qu'il est évident ou facile justement d'appliquer la justice dans ce genre de cas de mariage précoce, surtout dans certaines zones comme Kayi où la tradition a une valeur très très quasiment supranationale?
Oui, c'est pas comme vous dites le cas du Mali, mais je dirais pas seulement le cas de Kayi, mais je dis le cas de tous les enfants du Mali, c'est presque la même chose, parce que si je prends le document du plan d'action de la politique nationale sur la promotion de l'enfant que le ministère de la promotion a édité en 2014. Ils disent à la partie de la page 11 que la persistance des us et coutumes et la tradition néfaste profondément ancrée, notamment dans les mariages précoces et forcés, et de la présence des traditions et coutumes qui peuvent être obstacles à la pleine réalisation de tous les droits et libertés fondamentales. Un des intervenants a tout de suite souligné la faiblesse de notre société civile par rapport à tout ce qui est promotion et défense. Et les us et coutumes ont un poids de sorte que même l'État a reculé lorsque nous parlons de code des personnes et de la famille.
Voilà, on a vu ça justement dans le code de la famille et des personnes au Mali.
Oui, l'État a reculé. Alors, c'est dire que les justes et coutumes, ils ont un poids, un grand poids, ça n'est pas à négliger, mais c'est possible de changer. C'est pas possible parce que nous y croyons.
Est-ce qu'on peut parler également de poids de la religion? Le Mali étant à 95% musulman, est-ce qu'on peut parler aussi de poids de la religion au niveau de ça?
Si, la religion, tout ça, ce n'est pas caché à quelqu'un. Le recul que nous avons constaté ici, ça a été l'œuvre de certaines organisations qui se sont opposées, religieuses, islamiques, qui se sont opposées à la nouvelle génération du poids des personnes qui faisaient la lumière pour ce pays-là. Mais aujourd'hui, nous en sommes à cette situation où il faut repenser, il faut revoir qu'est-ce qu'il faut faire pour que nos lois puissent être au niveau régional, sous-régional, même international, pour que nos enfants puissent avoir, notre pays puisse présenter des enfants concurrentiels pour demain avec d'autres pays.
D'accord.
Et il ne faut pas négliger la religion. Moi, je dis la religion, les justes et coutumes, au Mali, ça pèse très lourd en tout ce qui concerne liberté et droit.
Monsieur Désiré Ballot, avant de parler justement de conséquences sur la santé, de conséquences psychologiques et de dommages corporels, dites-moi, est-ce qu'il ne faut pas quelque part associer une espèce de forme de justice transitionnelle pour justement évaluer ces cas-là et les juger avec des moyens plutôt traditionnels, puisqu'il semble que l'un des gros problèmes, c'est la compréhension justement par beaucoup de cultures de ce genre de phénomène.
Je ne pense pas que la question de justice traditionnelle sied à cette question du mariage précoce. Je pense que tout au long de cette émission, nous avons parlé de l'information, de la sensibilisation, Et quelqu'un a parlé de la faiblesse de l'État. Donc je me dis, toutes ces organisations de la société civile qui militent pour l'abandon ou bien la fin du mariage précoce, donc doivent informer davantage pour que ce changement de comportement soit au niveau des Maliens. Mais je dirais que quand on dit changement de comportement, vous savez, c'est tellement facile à prononcer, ces deux termes seulement. Mais en réalité, c'est une lutte de longue haleine. Donc changer les us et coutumes, ça suppose une lutte de longue haleine. Ça suppose un engagement constant. Et cet engagement constant, en tant que de l'ambassade de Suède, donc c'est ce que nous essayons aussi de faire avec notre dialogue politique avec le gouvernement du Mali, pour essayer de voir, c'est-à-dire comment de plus en plus on peut, c'est-à-dire respecter la question des droits de l'enfant. Et aussi, dans tout ce que nous entreprenons au Mali, pour, au niveau de l'ambassade de Suède, donc nous essayons de faire en sorte que cette thématique des droits de l'enfant soit au cœur de nos interventions.
Alors dites-moi, M. Brima Diallo, M. Brima Ballo, de l'ONG Amstop, dites-moi, quand on parle aujourd'hui de mariage précoce, forcément, il y a des conséquences sur la santé. Alors parlez-nous un peu de ces conséquences sur la santé de ces jeunes filles particulièrement.
Merci, M. Touré. Qui parle de mariage précoce parlera de grossesse précoce. La grossesse précoce va engendrer des problèmes de santé sexuelle et de la reproduction. Il est clairement établi que l'une des raisons, des fistules obstétricales, il y a le mariage précoce qui fait partie. Donc ça, c'est un problème. Et ensuite également, donc lorsque nous avons ce problème-là, pardon, c'est la fistule, et ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est l'abandon. Abandonné par l'époux, abandonné par la famille même qui l'a sacrifié. Et enfin, c'est la déception. Les divorces vont s'en suivre. Et c'est toute une vie qui est gâchée. Voilà. Donc à cela, s'ajoutent vraiment des conséquences psychologiques. Le stress. La dépression, les sentiments de culpabilité, de se sentir abandonné par ses propres parents, ça peut engendrer les suicides. Il n'est pas rare de voir.
Est-ce que vous avez connu justement des cas de suicide, par exemple au Mali, dû à des mariages précoces?
Oui, sur le terrain, nous avons rencontré. Et même au niveau de la presse, quand il y a des faits divers, donc ça revient fréquemment. Donc, et encore, je ne sais pas, et lorsque tu prêtes attention pendant les nuits de noces, les cris stridents de ces filles-là, ça donne la chair de poule. Donc on sent qu'elles subissent une épreuve très éprouvante. Et ce qui va engendrer plus tard chez elles, la frigidité. Donc elle a plusieurs origines, elle peut être biologique comme psychologique. Mais imagine le cas de figure suivant. Une fille qui est excisée. Ensuite, donnée précocement en mariage à un mari qu'elle n'a pas voulu. Alors, la frigidité, elle risque, elle est vraiment développée à long terme. Il y a le risque important que cette fille-là puisse développer une frigidité ultérieure.
Merci. Monsieur Antoine Aplogan, vous êtes le directeur exécutif de Grandem Mali, qui est un groupe de recherche action droit de l'enfant. Quel est le cas le plus, on va dire, la plus jeune mariée précocement que vous avez croisé au Mali?
La plus jeune cas, si je dis mariée, je ne pourrais pas dire parce que mariée, c'est célébré à la mairie, mais qui a connu le mariage traditionnel.
Oui.
Donc, dire, ça, c'est ce que je n'ai pas croisé même moi-même, mais qu'on m'a rapporté. Ça, c'était une fille qui faisait la classe de 6e année.
Et imaginez. Elle avait quel âge? Vous avez un âge?
12-11 ans. Et là, je vous dis, hein, quand le directeur, parce que ça m'a été rapporté lors d'un renforcement des capacités sur l'inculturation du droit de l'enfant dans une des communes où nous intervenons, principalement au Guénéka, dans la région, dans le sec de Kana. Et ce responsable scolaire nous a dit, quand il était à l'époque enseignant, il dit quand sa fille, la fille qui était l'une des meilleures de ses élèves n'est pas arrivée un de ces matins, il s'est posé la question, où est-elle? Et là, on a dit non, elle ne va plus venir. Il a cherché à comprendre, il a cherché les parents, il est allé voir les parents, on dit non, elle a été mariée. Et c'est en ce moment-là qu'il s'est rendu compte qu'une fille qui à peine poussait seulement les seins a été donnée à un homme qui était plus d'une quarantaine d'années comme seconde épouse. Et qu'il a usé de son droit et de son influence en tant qu'enseignant avec l'appui des conseillers à l'époque et pour faire venir les parents, demander aux parents de ramener l'école, l'enfant à l'école obligatoirement. Et dans les 3 jours à qui suivent, l'enfant est revenu reprendre sa place à l'école.
Donc une solution, une fin heureuse, une solution a finalement pu être trouvée.
Oui, une fin heureuse. Elle a repris l'école, mais tu vois déjà, ce qui a été fait, a été fait.
D'accord, merci. On revient vers vous pour d'autres questions. Nous observons quelques secondes de pause et nous revenons pour la suite de cette émission.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio
Tamani. Vous suivez le grand dialogue du Studio Tamani. On parle justement de mariage précoce à marge de la journée internationale de la fille qui a été célébrée aujourd'hui au Mali. Nous avons comme invité Désiré Ballo, chargé de programme droits humains à l'ambassade de Suède. Brima Ballo, il est le chargé de programme ONG Amstop, c'est l'association malienne pour le suivi et l'orientation des pratiques traditionnelles. Fatima Sangaré n'a malheureusement pas pu effectuer le déplacement. Antoine Aplogan, qui est le directeur exécutif de Grandem, est également avec nous. Grandem, c'est le groupe de recherche Action Droits des Enfants. Alors, dites-moi, Monsieur Désiré Ballo, parlons à présent un tout petit peu de sensibilisation ou de répression. Qu'est-ce que vous pensez pouvoir être l'alternative aujourd'hui? Est-ce qu'il faut passer par la sensibilisation? Puisqu'il me semble que, en analysant tout ce qui a été dit ici, il y a un véritable problème de tradition et de compréhension auquel on se bute.
Oui, je ferai remonter votre question, c'est-à-dire à un niveau plus global.
Merci.
C'est ce que j'ai dit en tant qu'ambassade de Suède. Je pense que l'une, c'est-à-dire des façons pour nous de faire soulever cette question, de donner de la compréhension par rapport à cette question, c'est le dialogue politique, c'est le plaidoyer. Et c'est pourquoi nous finançons par exemple une organisation comme UNICEF. Et nous voudrions que UNICEF, par exemple, à son tour, travaille avec non seulement le ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, mais aussi avec les ONG qui sont vraiment engagées sur cette question. Donc ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, vous allez voir au niveau de la Suède, au niveau global, donc la Suède fait son maximum pour suivre la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l'enfant. Donc elle le fait non seulement au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies, au niveau des organisations des Nations Unies comme l'UNICEF, comme le FNUAP, comme le PNUD, etc. Mais aussi au niveau bilatéral, notre relation avec le gouvernement du Mali. Donc, et c'est le lieu de dire que, par exemple, la stratégie actuelle qui s'étend sur la période 2016-2020, donc, a un focus important sur la démocratie, le respect le genre et le respect accru des droits de l'homme. Et par démocratie, respect accru des droits de l'homme et le genre, donc on focalise aussi beaucoup d'actions sur la femme et l'enfant. Parce qu'on se dit que ce sont les couches les plus vulnérables. Et pour revenir à votre question, je voudrais dire que la sensibilisation, l'information est une arme de persuasion. Mais l'effet peut être lent à obtenir. Je disais tout de suite avec mon frère dans la salle que ceux-là qui travaillent sur les questions de protection de l'enfant, c'est comme on le dit en bambara, si je traduis de façon littérale, quelqu'un qui sue sur la pluie. C'est-à-dire ils abattent un travail important, travail incommensurable, mais dont les résultats ne peuvent pas se faire voir tout de suite. Mais je pense qu'avec la sensibilisation, avec les activités de formation, donc on pourrait arriver peut-être petit à petit à convaincre un certain nombre de gens et qui vont constituer des alliés autour de cette question pour davantage agrandir ce cercle des alliés. C'est ce que je pouvais dire.
Monsieur Brema Balo de Amstop, on a vu par exemple dans le cas de l'excision qu'on est passé aussi par les religieux pour justement pouvoir sensibiliser les gens. Est-ce que c'est une pratique qui, à votre avis, pourrait donner un résultat probant dans ce cas de mariage précoce?
Bon, oui et même. Oui, si les religieux sont conscients que marier une fille de 11 ans, 12 ans, est très préjudiciable pour sa santé et viole ses droits humains. Donc il peut prêcher. Il peut prêcher dans ce sens pour que les gens puissent marier leurs enfants à l'âge autorisé. Donc ça, c'est une possibilité.
Alors, qu'est-ce que vous faites concrètement au niveau de l'association malienne pour le suivi et l'orientation des pratiques traditionnelles? Vous, c'est à peu près votre rôle, justement, oui, de parler à ces gens ancrés dans la tradition, d'essayer de les amener vers un changement de comportement. Qu'est-ce que vous faites concrètement à ce niveau?
Bon, à ce niveau, donc, nous sommes tous persuadés que la sensibilisation est une arme, la loi aussi. Mais il faut aller avec leur dire ensemble. Donc, avant la loi, il faut amener tout le monde dans un même bateau. Donc, nous travaillons avec les religieux, nous travaillons avec les leaders communautaires, nous travaillons même avec les groupements des femmes et même les concernés, les jeunes, à renforcer leur capacité pour qu'une jeune fille puisse savoir que me marier avant l'âge de 18 ans, donc, est une violation des mêmes droits. Et je peux dire oui, et je pourrais me plaindre.
Et du côté de la législation, marié avant 18 ans n'est pas normal selon vous, mais la loi lui permet de se marier déjà à 16 ans. Qu'est-ce qui est fait justement au niveau de cette législation-là pour que les textes qui sont en vigueur soient en conformité avec les autres conventions que le pays a signées?
Mais monsieur Touré, vous venez vous-même l'idée de la solution. Il faut harmoniser ces textes-là, tout en prenant en compte les bien-être des enfants, que l'intérêt supérieur de l'enfant soit au-dessus de toute considération socio-culturelle et ou religieuse. Donc, si cela est compris par tout le monde, je pense que nous allons pouvoir harmoniser ces textes-là. Mais d'ici là, le plus important est que nous puissions trouver un terrain d'entente entre les leaders religieux, leaders communautaires, associations et sociétés civiles, que nous puissions ensemble discuter sur le bien-être de l'enfant. Qu'est-ce qui est mieux pour l'enfant? Au début de l'émission, moi, j'ai un enfant de 11-12 ans à sa place à l'école. Ma fille qui a 12 ans, donc à sa place à l'école. Et je vais vous dire quelque chose qui est important. Lorsque vous engagez un débat avec une maman qui a subi le mariage précoce, et à la fin du débat, tu la demandes, mais est-ce que tu souhaites la même chose pour ton enfant? 80% des cas te diront non. Tu demandes pourquoi, elle te dira, je veux que ma fille aille à l'école. Tout au fond de moi, l'espoir est permis. La mère qui a subi cette pratique-là, si elle avait une autorité dans la famille, si elle pouvait s'exprimer, elle a dit, ma fille ne va pas subir les mêmes sorts que moi. Voilà.
Merci beaucoup. Monsieur Antoine Aplogan de Grandem, est-ce que vous me recevez?
Si, je voudrais donner un peu mon avis sur...
Allez-y, justement, c'est pour cela qu'on est là. Alors, répression ou sensibilisation dans ce cas-là?
Bon, je dis d'abord information, sensibilisation, parce que nous, c'est ce que nous avons mis comme stratégie. Et en faisant l'inculturation du droit en langue locale dans les communes où nous intervenons. Et je vous rassure, en parlant de droit... des droits de l'enfant, au départ, qui est rejeté tout de suite. On dit que c'est la chose des Blancs que vous amenez. Mais quand nous avons essayé d'amener les villageois à dire, en mettant toutes les sensibilités ensemble, enseignants, chefs de communauté, villageois ordinaires, tous ceux qui ont une responsabilité, femmes, enfants, et je vous dis, on est arrivé à traduire droits, devoirs et responsabilités, et aussi à dégager ce que droit signifie. Qu'est-ce que droit, le droit nous oblige, on a droit à quoi? À ce qui nous est essentiel pour vivre, pour amener une vie épanouie. Je vous dis que ces sociétés-là aujourd'hui, quand tu leur parles du droit de l'enfant, ils disent qu'on va en faire.
ça existe chez nous depuis les temps immémoriaux. Mmh. Et ils commencent à intégrer une vision que l'autre vient de lui dire. Tu dis, est-ce que tu souhaites que ça, cette situation arrive à ton enfant? Il a ça pour lui. Ne le souhaites-tu jamais pour ça? Parce qu'il a pris conscience.
Mmh.
Et je pense que nous devons aller à partir de la base. Les grands, les adultes d'aujourd'hui, moi je dis toujours à mon équipe, sont un groupe perdu. Je me mise sur la nouvelle génération, sur les enfants, éduquons-les, informons-les, c'est eux qui peuvent changer la donne. S'il y a l'espoir, est possible à ce niveau-là.
Merci beaucoup, M. Aplogan, pour cette intervention. Alors, moi, aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut mieux communiquer, justement? Est-ce que si, justement, les femmes qui sont beaucoup plus nombreuses que les hommes au Mali, qui sont les principales concernées, vous l'avez dit tout à l'heure, elles ne veulent pas que leurs filles subissent parfois la même chose, est-ce que ces organisations de femmes, d'associations villageoises de femmes et autres, puisque la pratique est quand même plus accrue dans les zones rurales, est-ce qu'elles peuvent justement servir d'alternative, de moyen de sensibilisation ou de moyen de pression sur les hommes ou sur le poids, sur la tradition, selon vous, M. Badou?
Oui, je dirais oui. Les organisations de femmes ont un grand rôle à jouer. Mais comme rappelé par mon frère aussi tout au début de cette émission, lorsqu'on parle de genre d'une façon générale, c'est-à-dire il ne faut pas résumer la question en disant que ça concerne les filles, donc c'est un problème de femmes. Oui, les femmes sont assez importantes, les femmes sont importantes dans cette sensibilisation, dans le processus de donner de l'information, d'éduquer les gens, mais je pense aussi que cela doit être fait ensemble avec les hommes. Les hommes, on sait, c'est eux qui ont le pouvoir de décision au niveau familial, donc il faut les impliquer aussi dans cette lutte. Donc, on ne peut pas, par exemple, dire qu'on va aller uniquement avec des organisations de femmes et laisser à côté les... Donc, il faut l'implication de tous. Il faut l'implication de tous. Il faut une collaboration, une synergie entre tous ces acteurs qui interviennent. Qu'il s'agisse d'organisations de la société civile, qu'il s'agisse de l'État ou qu'il s'agisse, par exemple, des partenaires techniques ou financiers et le système des Nations Unies. Donc, il faut vraiment une conjugaison de tous les efforts pour que on puisse arriver à des résultats probants, des résultats qui seront très bien pour ces filles-là.
Merci. Alors, Brema Balot de l'ONG Amstop, est-ce que, à votre niveau, au niveau de Amstop, il y a une prise en charge, par exemple, de ces victimes-là, qu'elles soient psychologiques ou d'une autre, sous une autre forme, est-ce qu'il y a une prise en charge, justement, des victimes de mariage précoce?
Oui, et parlant de prise en charge, je remercie nos partenaires qui nous soutiennent dans ce sens. Je vais parler de l'UNICEF, l'ASDI, parce que l'ASDI, l'UNICEF reçoit de la part de l'ASDI et nous, en notre tour, nous recevons de la part de l'UNICEF. C'est financement. Je vais parler de l'UNFP, de l'Agence française de développement, à travers l'ONG française équilibre et population. Donc, nous avons les femmes dans au nom de la communauté. Nous communiquons avec les hommes, les femmes, les victimes. Celles qui... Il y a les mariages précoces engendrent forcément des complications chez la femme. Et ces conséquences-là sont prises en charge gratuitement, qu'elles soient médicales et psychologiques à AMSOP. Il y a un schéma donc, que nous avons établi. C'est-à-dire que lorsqu'une victime, je ne dirais pas victime, parce qu'une survivante voilà, de mariage précoce est...
Le mot n'est pas un peu fort.
Voilà, survivante, parce que entre survivante et la survivante, elle essaie de se surpasser. La victime n'a aucun soutien. Or, dans la communauté, nous sommes là, donc nous sommes au Mali, donc c'est une survivante. Donc, elle est orientée vers un centre de santé, donc qui fait le diagnostic. Si la prise en charge est possible, si son plateau technique lui permet, donc la prise en charge est autrement faite. Auquel cas, elle est orientée vers vraiment les seconds niveaux dans un hôpital régional. Généralement, c'est géré à ce niveau-là. Même si c'est pas, on n'a pas pu gérer là, on peut l'amener jusqu'au niveau national. Donc, notre dispositif prévoit ça. Donc, au Mali, c'est pas seulement AMSOP qui le fait. Il y a l'État du Mali donc, qui prend en charge ces cas-là. Il y a d'autres ONG et associations qui se sont engagées pour donner un semblant de vie je dis, un semblant de vie à ces femmes et donc à ces filles qui sont victimes des conséquences des mariages précoces.
Merci madame, merci monsieur d'avoir suivi cette émission. Je rappelle que cette émission a été facilitée par l'ambassade de Suède et l'UNICEF, l'ambassade de Suède qui est un des partenaires de Studio Tamani, en même temps un partenaire de l'UNICEF. Merci monsieur d'avoir partagé votre expertise avec nos auditeurs. Désiré Ballot, chargé de programme de droits humains de l'ambassade de Suède, nous a fait l'honneur d'être là. Brahima Ballot, chargé de programme de l'ONG Amstop, association malienne pour la survie, pour le suivi et l'orientation des pratiques traditionnelles, était avec nous. Également avec nous Antoine Aplogan, le directeur exécutif de Grandet. Merci messieurs, merci madame. Cette émission a été réalisée par Samba Doumbia. La mise en onde a été assurée par Mamadou Ouattara. Salim Diouara était à la régie vidéo. Merci, à demain pour une autre émission.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani wa Makaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Beri. Halo Dumondi.
Chenne Beri. Sigi Kafoba.